Frères et sœurs bien-aimés, en étant réunis en ce dimanche autour de la figure de notre saint patron, Vincent dit de Saragosse, nous sommes dans l'action de grâce, car tout au long de sa vie, Vincent fut fidèle à l'appel qu'il avait reçu du Seigneur et à ce ministère, c'est-à-dire ce service qu'il exerça pour son Église. Diacre, il était aux côtés de son évêque. C'était un bon prédicateur et lors des messes épiscopales, Vincent prêchait d'abondance de cœur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, cette conversion, c'est-à-dire ce changement du cœur. Mais voilà que, en ce IVe siècle, la foi chrétienne en est à ses commencements et est encore persécutée, gravement même persécutée. Chacun des membres de la communauté chrétienne, comme un grand nombre de chrétiens aujourd'hui de par le monde, en particulier les chrétiens d'Orient, eh bien, célébrer le culte à notre Seigneur Jésus le Christ dans l'angoisse, la peur peut-être, des persécutions, au risque même de perdre leur vie. Dans ce contexte, la foi chrétienne est donc une adhésion de toute sa vie et de toute son existence au Christ en vue de la vie éternelle. Eh bien, voilà que Vincent, lorsqu'on lui demanda, ou plutôt lorsqu'on le força à sacrifier aux idoles, refusa. Lorsqu'on lui demanda de livrer les livres saints pour qu'ils soient brûlés publiquement, il refusa. Alors Vincent entra à la suite de son Seigneur, après avoir exercé cette vie de prédication, cette vie au service des pauvres, au service de l'Église naissante, eh bien voilà qu'il suivit le Seigneur de près dans la passion. Les tortures n'ont pas manqué dans la passion de Vincent. Et se répandit alors dans les premiers siècles du christianisme un grand culte, une grande renommée aux côtés de saint Vincent. Vincent en latin signifie le victorieux. Alors saint Augustin, dans quelques grands sermons, fit l'éloge de celui qui fut pour tout victorieux. Il fut mis en proie à la haine du monde. Eh bien, il fut victorieux parce qu'il vivait déjà de l'autre monde. Il fut ainsi montré du doigt pour cette délicatesse, pour toute cette solidarité manifestée aux plus pauvres. Pour qui est-il? Pour qui se prend-il? Pour qui se prennent-ils ces chrétiens? Eh bien, il fut victorieux aux yeux du monde. Celui qui avait entendu l'appel, comme nous avons entendu dans l'Évangile, le Seigneur Jésus appelait eh bien, Pierre, André, Jacques et Jean, qui aussitôt le suivirent, ont vu en saint Vincent un homme qui a su accomplir sa vocation dans l'Église. Et même ce sacrifice qu'il fit de sa vie, auquel fut associé également le martyre de son évêque qu'il servait, eh bien, apportait du fruit et du fruit en abondance. Il est aujourd'hui à la gloire du ciel et nous lui confions toutes nos intentions de prière. C'est alors de cette immense renommée de la vie de saint Vincent eh bien, que notre village de Cerse, au commencement de son existence, le choisit pour saint patron. Juste au-dessus de notre cher village de Cerse se tient le mont dénommé Saint-Justin, car c'est là que notre premier évêque, Justin, vient se retirer alors que la ville de Tarbes était en proie aux barbares et des persécutions contre la première communauté chrétienne. Il trouva refuge ici et c'est ici, sur cette hauteur de Cerse, qu'il rendit son âme à Dieu. C'est donc ici eh bien, le lieu mémoire de cette foi naissante en Bigorre et la croix sur le mont Saint-Justin nous rappelle qu'il est venu nous annoncer la vérité de l'Évangile, qu'à travers les épreuves et les souffrances de ce monde, il y a le bonheur de l'autre monde. Mes chers paroissiens et chers amis de Cerse et du Pays Teuil, à l'occasion du martyre de saint Vincent qui remonte au IVe siècle, je voudrais mettre en lumière aujourd'hui la figure d'un des bienheureux Bigourdans qui vient d'être déclaré bienheureux le 13 décembre dernier en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le bienheureux abbé Pascal Vergès. Le bienheureux abbé Pascal Vergès est né à Aucun dans notre vallée des Gaves en 1910. Si Vincent signifie le victorieux et que, à travers toute sa vie, il manifesta la victoire du Christ sur les ténèbres du monde, le jeune Pascal s'appelle ainsi car il est né au jour de Pâques 1910. Son père Jules était alors gendarme à Esch, mais bientôt ils vont venir habiter à Lucin-Sauveur avec son épouse Marie. Alors que l'un de mes prédécesseurs, l'abbé Noguet, était curé à Lucin-Sauveur, le jeune abbé Vergès reçut le sacrement de la confirmation en notre église Saint-André. Déjà enfant, il avait ressenti comme l'attrait des choses de Dieu. On le voyait souvent aller à l'église, particulièrement prier à l'autel de la Sainte Vierge. La mémoire d'aucun se souvient, dans cette jeunesse d'enfant, après 1910, et bien que pendant la Première Guerre, et bien voilà que tous les jours, on allait à l'église. On allait à l'église pour prier, pour ardemment intercéder pour tous ceux qui étaient partis défendre la patrie. Voilà cette jeunesse marquée par cette vie à aucun, par cette messe dans le sérieux de tous ceux qui étaient partis sur le front, avec le désir dans l'âme de l'abbé Vergès, eh bien, d'aller enfin à Lourdes, car son curé parlait beaucoup du message de Lourdes et de la grotte bénie. C'est lorsque la guerre fut terminée que toute la paroisse d'Aucun et son père, avec sa mère, eh bien, ils puissent partir, enfin aller à la grotte de Lourdes. Nous sommes alors en 1918. 2 ans après, il fit donc cette confirmation en notre église de Luce. Et là, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, le regard de Dieu s'est posé sur lui. Et voilà qu'il entendit l'appel, et aussitôt dans son âme, il décida de répondre oui à ce Christ qui l'appelle. Alors il va rentrer au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, revenant très régulièrement à Lucin-Sauveur chaque été, et va finir par être ordonné prêtre en 1935, le 2 juillet, en la basilique du Rosaire, au plus près de la grotte de Lourdes. L'abbé Vergès exerça, sous la demande de Mgr Gerlier, évêque de Tarbes-et-Lourdes dans ce temps-là, son premier ministère comme professeur de français et de latin au séminaire de Saint-Pé. Avant d'être ordonné prêtre, comme toute cette génération, il fit son service militaire parmi les chasseurs pyrénéens et partit ainsi à l'infanterie à Brive-la-Gaillarde. Et lorsque fut déclaré les hostilités de la Seconde Guerre mondiale, voilà qu'il fut rappelé avec son régiment et fut alors prisonnier. Le voilà prisonnier de guerre. Lui qui avait célébré sa première messe à l'église de Lucin-Sauveur, eh bien avait dit, c'est l'une des paroles qui nous est revenue, « Prêtre, je le suis, je le serai jusqu'à ma mort ». Eh bien voilà que l'abbé Vergès, dans les ténèbres du second conflit mondial, a vu resplendir la lumière du Christ. Dans sa prison, eh bien, il s'efforce, grâce à la Convention de Genève, eh bien, de pouvoir exercer son ministère sacerdotal. La raison pour laquelle il avait donné sa vie, parler et enseigner Jésus-Christ dans les cœurs et dans les âmes, mais aussi dispenser sa paix et son règne d'amour et de miséricorde à travers les sacrements. Il put le faire en tant que prisonnier. Il subit bien sûr quelques brimades, parce qu'il était prêtre et identifié comme tel. Et puis, voilà que l'abbé Rodin, qui fondera après ce conflit mondial ce qu'on appelle aujourd'hui le Secours catholique, qui était alors aumônier des prisons, sous la houlette du cardinal Suard à Paris, décida avec le STO, ce service de travail rendu obligatoire, qui amena toute une partie de la jeunesse en Allemagne travailler pour l'ennemi. Eh bien voilà que l'abbé Rodin et le cardinal Suard demandent à quelques prêtres qui sont dans les prisons « Accepteriez-vous de quitter votre statut de prisonnier et de partir comme travailleur obligatoire en Allemagne pour pouvoir aller exercer auprès d'une jeunesse extrêmement nombreuse et encore fortement désireuse de vivre de notre Seigneur Jésus le Christ et des sacrements? Acceptez-vous de franchir ce pas ?» Le discernement de l'abbé Vergès fut bien grand. Car une chose est d'être prisonnier pour la patrie, une autre est d'être mal considéré et mal vu parce que l'on va travailler pour l'ennemi. L'abbé Vergès finit donc par amour de Dieu et par amour du prochain, par entendre cet appel plus étroit, malgré ce que l'on en pensera, eh bien d'aller lui aussi dans ses camps de travaux obligatoires pour pouvoir être eh bien aumônier. On lui avait promis qu'il serait l'aumônier d'une très nombreuse et grande communauté chrétienne. Mais comme l'ont reconnu les autres martyrs qui ont été béatifiés avec lui, s'il y avait bien la cabane qui était un bordel, on refusait qu'il y ait une cabane pour que l'on puisse célébrer la Sainte Messe. L'abbé Vergès fut bien plus disposé à célébrer les sacrements et la vie chrétienne lorsqu'il était prisonnier que lorsqu'il fut ainsi persécuté parce que prêtre en Allemagne. La jeunesse avait encore dans les âmes par rapport à aujourd'hui le grand sens des choses de Dieu, le sens de la vie éternelle. Il savait les horreurs de la guerre, il savait qu'en travaillant pour l'Allemagne, il travaillait contre leur patrie et ne le faisait pas tous ces jeunes de gaieté de cœur. Et voilà que la vérité de la situation les incitait à une plus grande vérité dans leur vie de foi. Alors l'abbé Vergès, qui travaillait dans la baraque des chimistes, analysant de l'eau, nous dit-il dans quelques lettres qu'il écrivit à sa mère ici à Lucin-Sauveur, eh bien voilà que cet abbé Vergès a d'innombrables jeunes qui viennent demander soit des conseils, soit de les entendre en confession. Le soir, il organise des petites retraites, des récollections pour ne pas désespérer, alors que, voilà comme on l'a entendu dans le prophète Isaïe, dans l'Évangile, c'était un peuple qui marchait à travers les ténèbres. Et à travers les ténèbres, voilà l'abbé Vergès qui fut comme une lumière pour tous ceux auprès de qui il put exercer son ministère. Il fut pris en grippe, forcément, et par les autorités allemandes, mais aussi par la Gestapo, parce qu'il célébrait la messe. Parce qu'on lui demandait « Mais de qui avez-vous reçu l'autorisation de célébrer la messe ?» Et sans se départir de son bon sens bigourdant, telle sainte Bernadette à qui, dans son tempérament, il ressemble tant, il répondit « La permission, je l'ai reçue du pape. » Lorsqu'il s'est fait surprendre, en train d'aller bénir au jour de la Toussaint les tombes de tous ceux parmi les camps qui avaient été fusillés ou qui avaient été enterrés à cause du mauvais traitement qui leur était infligé. Il ne craint pas les brimades. Il avait le sens du devoir. Prêtre, je le suis. Je le serai jusqu'à ma mort. Si Saint-Vincent a brillé dans toute sa vie, eh bien voilà que l'abbé Vergès brilla aussi, comme une lumière peut-être bien chétive au milieu des ténèbres qui l'envahissaient. Mais sa maman Marie reçut d'innombrables lettres après son décès en 1944 et des lettres qui nous sont encore parvenues aujourd'hui parce que chaque famille recherche un peu ces différentes traces, ces différentes lettres et on a eh bien, le témoignage de tous ces gens qui disent « Nous avons connu l'abbé Vergès, nous avons vécu aux côtés d'un saint, c'est un martyr. » Martyr parce que dans les derniers mois de sa vie, en 1944, il a été pris et envoyé dans un camp où là, on avait décidé, à celui dont on n'avait pas réussi à faire bouger l'espérance, malgré la désespérance de l'alentour, eh bien, on avait décidé alors qu'il serait chaque jour flagellé. Sa maman rapporte les horreurs dans une lettre que la famille de l'abbé Rivière, bien connue ici, originaire de Serres, avait dans ses archives. Et bien voilà que l'abbé Vergès, non seulement vécu avec de très mauvais traitements, ils étaient tous sous-alimentés, l'abbé Vergès avait en plus une grande charge de travail, car une fois son travail accompli, il exerçait une partie de la nuit, y compris tout son dimanche, son ministère sacerdotal. Et je vous raconte là le dernier instant de sa vie. L'abbé Vergès en était à rendre son dernier souffle, travaillant dans cette baraque des chimistes sans aucune protection particulière. Voilà que le typhus l'atteignait et avait des quintes de toux incessantes. Il était sur une pauvre paillasse dans cette cabane qui servait d'infirmerie, bien qu'il n'y avait pas de soins infirmiers. À côté de lui, il l'avait déjà rencontré dans les différents procès qu'on lui fit faire, de ci, de là, dans les différents camps où on l'avait transporté, connaissance d'un jeune Allemand. Un jeune Allemand, Steiner, qui s'était fait repérer dans une manifestation contre le nazisme. Et il fut embarqué, au même titre que l'abbé Vergès, pour ses camps de la mort. Et bien voilà que ce jeune Steiner, rentrant dans le train, on lui ferma la portière sur sa jambe, et c'était alors le voisin de l'abbé Vergès, blessure ouverte, il hurlait tout ce qu'il pouvait. Et sentant malgré tout son dernier souffle arriver, habité par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain, l'abbé Vergès s'efforça de rassembler le peu de force qui lui restait pour se lever, pour chercher comme à tâtons ce qu'il allait pouvoir trouver pour réaliser un bandage à celui qui est le prochain du moment. Il réussit à lui rendre les quelques soins qu'il put. Il avait quand même reçu quelques formations d'infirmier. Et voilà que, sur le retour, après avoir rendu ce dernier acte de charité, il tomba à genoux et rendit alors son âme à Dieu. Il fut béatifié, je vous le disais, le 13 décembre dernier à Notre-Dame de Paris. Le pape Léon XIV avait bien sûr autorisé cette béatification. Notre évêque, une partie du diocèse, était présent à Notre-Dame de Paris, y compris des descendants de l'abbé Vergès, pour rendre grâce avec tout notre diocèse pour cette belle figure de sainteté qui nous a été donnée en 2025, 100 ans après la béatification de cette grande sœur que nous avons au ciel, sainte Bernadette Soubirous. Alors nous demandons à Saint Vincent, comme nous demandons au bienheureux abbé Pascal Vergès, que nous aussi, dans les ténèbres de notre monde, nous puissions eh bien, resplendir et voir resplendir la vive lumière du Seigneur mort et ressuscité, qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui ne nous abandonne pas, quelle que soit notre situation de vie, et qui veut pour nous la vie et la vie en abondance. Prêtre, je le suis, je le serai jusqu'à ma mort. Il s'appelait Pascal. Il a vécu la Pâque, ce passage de la mort à la vie. Et dans la gloire du ciel, il prie pour nous, et nous pouvons aussi maintenant nous confier à son intercession. Dans les différentes lettres qu'il écrit à sa maman le dimanche soir, à la fin d'une très longue journée, eh bien, il y a le sens de la famille, mais surtout, malgré les tourments et les angoisses de cette situation dont on n'avait aucune perspective d'avenir, eh bien, un grand sens de la confiance qu'il peut avoir en Dieu. Quand est-ce donc que tout cela cessera? Quand est-ce que nous pourrons nous revoir, maman et vous, ma chère sœur? Quand est-ce que... Et il se reprend toujours en disant, Dieu le sait. C'est là le principal. Alors que cette confiance en Dieu, qui nous est donnée en exemple par l'Église, eh bien nous aide, nous aussi, à affronter les ténèbres de ce monde, à voir resplendir la vive lumière du Seigneur ressuscité, que l'exemple de Saint Vincent d'hier ou l'exemple plus récent de l'abbé Vergès nous soit des sources d'inspiration pour que, comme eux, nous puissions aimer Dieu et aimer notre prochain. Ainsi soit-il.